Bonjour à tous, l'émission d'aujourd'hui a été préparée par Cédric Fuentes, Louis Drillon, Arjuna Andrade et Aliette Ovine. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Audrey Guélil.
Entendez-vous l'écho ? Tiffaine de Rocchini.
Deuxième épisode de notre série consacrée à l'économie de l'armement. Après avoir assisté aux métamorphoses de l'industrie pendant la Grande Guerre, glissons-nous aujourd'hui dans les laboratoires de recherche de l'armée. L'industrie de l'armement a souvent été présentée comme un aiguilleur du progrès technologique. C'est dans le giron militaire que sont nés le GPS, les satellites ou encore le micro-ondes, des inventions rapidement adoptées par le monde civil. Alors la recherche militaire est-elle toujours un moteur de l'innovation ? Ces découvertes profitent-elles à l'ensemble de l'économie ? Et l'armée doit-elle s'ouvrir davantage aux technologies du civil ? Voilà les questions qui vont nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons parler d'innovation militaire en compagnie de Claude Serfati, économiste, maître de conférence à l'université Versailles-Saint-Quentin et auteur de cet ouvrage « Le militaire, une histoire française » paru aux éditions Amsterdam. En compagnie également de Sophie Lefèze, avec nous par téléphone, chercheuse associée à l'Institut des relations internationales et stratégiques et auteur de « L'illusion technologique dans les armées » paru aux éditions Nuvis. En fin d'émission, on retrouvera Arjuna Andrade qui nous donnera des nouvelles de l'écho.
Voici dans ses grandes lignes le fonctionnement du cerveau électronique. Le problème est exposé en 36 pages d'équations. Par exemple, les équations sur lesquelles vous avez séché au lycée, AX plus B égale 0 ou AX2 plus BX plus C égale 0, ce sont les instructions sur carte perforée qui permettront à la machine de faire ses différentes opérations au moment voulu. Dès que les instructions sont mises en place, la machine est mise en marche et peut effectuer 50 multiplications de 14 chiffres, je répète, 50 multiplications de 14 chiffres en une seconde. Écoutez bien le cliquetis des relais. Attention. Vous comprenez maintenant, non point pourquoi cette machine résout les problèmes les plus compliqués, mais comment elle peut le faire et le faire très rapidement.
Claude Serfati et Sophie Lefèze, bonjour.
Bonjour, Tiffaine de Rocchini.
Merci beaucoup d'être avec nous. On vient d'entendre une archive diffusée dans la Grande Traversée consacrée à Alan Turing sur France Culture. Un journaliste présentait au public l'un des tout premiers ordinateurs fabriqués grâce aux travaux pionniers du mathématicien Alan Turing, qui a été enrôlé par l'armée anglaise pendant la Seconde Guerre mondiale afin de casser les codes d'Enigma, une machine utilisée par les Enigma, une machine utilisée par les Allemands pour communiquer avec leurs sous-marins. L'ordinateur créé par Alan Turing, c'est l'une des premières inventions financées par l'armée et passées ensuite dans le domaine civil, Claude Serfati ?
Oui, il y en a eu de nombreuses au préalable. Vous avez hier abordé les dimensions historiques, mais dans l'informatique électronique, oui, c'est une des premières et c'est révélateur du rôle de financement public massif qu'a joué le département de la défense américain. Pendant la guerre, 41% du produit intérieur brut était composé de dépenses militaires. On comprend qu'ils aient pu financer largement ce type d'innovation. Maintenant, je dirais, on y reviendra sans doute, qu'il faut, à mon avis, contextualiser les relations entre technologie militaire et technologie civile, à la fois historiquement, territorialement, distinguer deux modèles qui semblent identiques français et américains, mais aussi sectoriellement, ce qui se passe dans un secteur du point de vue des retombées technologiques militaires vers le civil ne se passera pas dans un autre secteur.
On va voir qu'en effet, il y a beaucoup d'allers et retours entre le secteur militaire et la technologie civile. Mais d'abord, Sophie Lefèze, par rapport à cet extrait sonore que l'on vient d'entendre, la Deuxième Guerre mondiale, c'est un bon exemple, un moment où l'armée finance énormément de recherches technologiques.
Oui, alors pour ma part, ce que je peux vous dire dans les recherches historiques que j'ai pu faire, c'est que la Première Guerre mondiale a été assez marquante pour les esprits parce qu'il y avait un équilibre des forces entre les deux camps et les armées se sont dit plus jamais ce genre de situation-là. Il faut absolument qu'on ait un avantage technique, une supériorité technique sur le camp adverse pour faire basculer cet équilibre des forces-là. Donc il y a une prise de conscience qui me paraît importante au plan historique à ce niveau-là et qui, à mon sens, va expliquer donc l'effort scientifique scientifique a été très fort pendant la Deuxième Guerre mondiale et depuis pour atteindre cette supériorité technique, donc ce petit pourcentage de plus sur le camp adverse.
Le fait qu'un certain nombre de technologies militaires soient ensuite passées dans le civil, c'est un argument qui a pu être mobilisé pour augmenter les budgets des armées. La question du budget des armées revient régulièrement dans l'actualité. Or, selon le ministère de la Défense, ces dépenses exercent un effet multiplicateur sur la croissance. Claude Servati, est-ce que c'est vraiment le cas? Quel lien est-ce qu'on peut établir entre dépenses militaires et croissance économique assez largement?
Cette discussion a été relativement taboue. Enfin, en macroéconomie, la conclusion que des dizaines, voire des centaines d'études ont montré, c'est qu'on ne pouvait pas conclure sur l'impact positif ou non des dépenses militaires sur la croissance économique. Mais moi, je me situe également dans un autre cadre qui est un peu celui, si vous voulez, des économistes de l'environnement aujourd'hui. On peut considérer que polluer l'environnement et détruire la nature, c'est une activité contributive, productive, positive, et donc ça va augmenter le PIB. On peut également considérer à ce moment-là que produire des engins de destruction, des systèmes d'armes, c'est aussi une activité positive. En fait, il faudrait distinguer ce qui est positif pour les entreprises et éventuellement pour les salariés qui vont travailler dans ces entreprises de ce qui, au niveau macroéconomique, au niveau national, me paraît plutôt produire des effets de ponction, voire de prédation sur les ressources productives et humaines.
Il y a un travail qui a été réalisé par les économistes Robert Pauline et Heidi Garrett-Pelletier sur les États-Unis qui estiment que les dépenses d'éducation créent 2,4 fois plus d'emplois que les dépenses militaires. C'est encore un sujet qui est en débat, cet impact des dépenses militaires sur l'économie et la croissance. Sophie Lefèze.
Oui, alors là, c'est ça sort un petit peu de mon champ de compétences, mais effectivement, enfin, moi, je vois ça d'assez loin. Je vois qu'effectivement, des articles de recherche économistes qui disent que ça porte en plus sur l'économie, d'autres qui disent l'inverse. Donc moi, je me prononcerai pas parce que j'ai pas travaillé là-dessus. Ce que je peux vous dire, c'est que dans les rapports parlementaires ou dans des rapports au niveau ministériel auxquels j'ai pu avoir accès, c'est quelque chose qui est relativement mineur. C'est plutôt considéré comme étant un plus, mais c'est pas essentiel pour d'un point de vue interne au ministère.
Alors on va voir de quelle façon ces dépenses militaires peuvent agir sur la croissance. Parmi elles, il y a celles qui sont consacrées à la recherche et au développement, évidemment. Or, ces travaux de recherche, de développement, sont davantage tournés vers la recherche fondamentale. Claude Servati, c'est l'une des principales différences avec la recherche privée.
Les dépenses de recherche et développement, si je prends le cas de la France, consacrées à la défense, représentent 5 milliards d'euros chaque année en 2019, et un quart seulement va être consacré à ce qu'on appelle la recherche de base et surtout à la recherche appliquée. L'essentiel, donc les 75% restants, sont du développement, c'est-à-dire l'adaptation de technologies, soit mise au point dans les milieux militaires, soit de plus en plus dans les domaines civils, pour les adapter à des produits extrêmement complexes, des systèmes de systèmes, maintenant on parle de ça dans l'armement, pour pouvoir les adapter à des conditions environnementales, physico-chimiques et de résistance extrême. Donc il y a une différence a priori avec la recherche qui pourrait être menée soit à l'université, soit dans les centres de recherche, bien sûr, principalement vers la recherche fondamentale et appliquée, ou même dans les entreprises qui, si elles priorisent les dépenses de développement, ne le font pas dans cette même mesure que le fait la défense. Je le rappelle, 75% des dépenses de R&D sont des dépenses de développement proprement dites, donc d'application.
On a parlé d'Alan Turing et de l'armée anglaise pendant la Première Guerre mondiale, du rôle qu'elle avait eu sur le financement d'un certain nombre de technologies. Mais là où l'innovation militaire a tenu une place centrale par la suite, c'est évidemment aux États-Unis. Après la Seconde Guerre mondiale, le ministère américain de la Défense a financé de très nombreuses activités de recherche. L'objectif, Claude Servati, c'était de conserver la suprématie militaire des États-Unis. On était alors en pleine guerre froide.
Absolument. C'est le président Eisenhower, en 61, dans son discours d'adieu, qui a mis en garde contre la constitution d'un complexe militaro-industriel. C'était en fait dans le cadre de la guerre froide que s'était développé, enraciné profondément et demeure encore profondément enraciné, ce que les Américains appellent un complexe militaro-industriel. Et évidemment, dans le cadre de cette compétition avec l'URSS, la recherche technologique d'excellence, la suprématie technologique est un absolu qui subordonne à cet absolu absolument toutes les contraintes, en particulier les contraintes financières, d'où le fait qu'on est passé de moins de 1% du produit intérieur brut pour les dépenses militaires avant la guerre à 5 à 6% de ce même produit intérieur brut dans les années 50 et 60 aux États-Unis, ou voire à la fin des années 50 en France à plus de 5% du PIB.
Et le ministère de la Défense a largement financé le développement de la high-tech aux États-Unis et il a aussi soutenu des entreprises qui n'appartenaient pas directement à ce complexe militaro-industriel dont vous parlez. Et c'est ce qui a permis l'invention, par exemple, du transistor ou du microprocesseur. Il y a eu des inventions absolument fondamentales dans le cadre de ces recherches, Claude Sarfati.
Exact. Dans le cas de pays en nombre très limité, les États-Unis, la France en font partie, il est évident que si vous financez massivement des activités de recherche, vous allez avoir des résultats au bout. Et c'est le cas que vous avez mentionné, le transistor en 48, le circuit intégré en 54 et le microprocesseur en 71 par Intel ont été financés au départ, mais au départ seulement, par le Pentagone, pour des entreprises, je le précise, c'est intéressant, qui ne faisaient pas partie du complexe militaro-industriel. Le Pentagone a été obligé d'aller les chercher hors du système militaro-industriel, tellement celles qui étaient présentes dans ce système étaient, je vais dire, embourbées dans des procédures très complexes et bureaucratiques qui les rendaient peu innovantes. Les exemples que vous avez mentionnés sont des exemples produits par des petites firmes qui étaient hors du système militaro-industriel.
Sophie Lefèze, on a pu entendre qu'Internet n'aurait pas existé sans la recherche militaire. En réalité, c'est un petit peu plus compliqué que cela.
Alors, encore une fois, je suis désolée, mais je ne suis pas compétente sur la question d'Internet, donc ça, je ne pourrais pas vous répondre.
Claude Serfati.
Oui, c'est un superbe storytelling, l'histoire d'Internet. Bon, à savoir la formule que vous mentionnez. Bon, il est évident qu'au départ, comme dans les cas mentionnés précédemment dans notre discussion, l'US Air Force, en l'occurrence, a financé des recherches pour organiser un réseau qui permettait aux militaires et aux chercheurs militaires de parler en toute sécurité. Mais je l'ai un peu documenté en m'appuyant énormément sur la littérature américaine. L'histoire d'Internet a peu à voir, en fait, avec le développement militaire. Très tôt, les militaires ont essayé de bloquer ce développement non propriétaire, comme on le connaît aujourd'hui, d'Internet, en refermant le système.
Ils voulaient un réseau exclusif. On est alors à la fin des années 60, au début des années 70.
Bien sûr, absolument. Il a été mis au point dans les années 60 et disons, comme ARPANET, comme pré-Internet à la fin des années 60. Et lorsque les militaires s'aperçoivent que ce système est en train de leur échapper, ils tentent de le refermer dans une logique extrêmement fermée. La communauté scientifique s'y est opposée et comme l'innovation est venue essentiellement de la communauté scientifique, les militaires ont dû renoncer. Finalement, ils ont adopté leur propre système. Ils se sont désengagés en quelque sorte d'Internet. À l'inverse, l'équivalent du CNRS américain, la National Science Foundation, a financé le système. Des chercheurs suisses ont mis au point les protocoles qu'on utilise encore aujourd'hui, HTML et HTTP. Enfin, on voit que sur 40 années, si au départ le Pentagone a financé la mise en place d'un réseau de communication, très très vite, il s'en est désengagé, voire s'y est opposé lorsqu'il le pouvait.
On parle depuis le début de cette émission, Claude Sarfati, d'invention, d'innovation. Peut-être qu'il faut faire un petit point pour expliquer la différence entre les deux. L'économiste Joseph Schumpeter a théorisé la différence entre innovation et invention. Écoutons les explications de Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes.
Ce qui est très intéressant, c'est de s'apercevoir que le moment où les inventions, à bien séparer des innovations, les inventions, c'est là où l'esprit humain commence à se dire comment est-ce que je vais améliorer les dispositifs, se passe plutôt pendant la phase de décroissance. Et puis à un moment, on a une sorte de possibilité très grande d'invention, et ces inventions vont se transformer en innovation, c'est-à-dire en application économique des inventions, au moment où ça redémarre. Et en réalité, c'est pour Kondratiev, comme d'ailleurs pour Schumpeter, c'est cet ensemble, ces grappes d'innovation qui vont faire le passage de la phase de décroissance à la phase de croissance. N'oubliez jamais que la plupart des inventions sont transformées en innovations dans la réalité, dans leurs principes. Leurs principes lointains, principes très scientifiques, sont développés très longtemps à l'avance. Et puis il y a un moment, alors il y a deux mouvements, il y a un moment où ces inventions deviennent un tout petit peu plus proches de la réalité de leur utilisation, tout simplement parce qu'on est dans les phases de baisse d'activité et qu'on essaie de rationaliser la production. Et deuxième aspect, ces inventions n'apparaissent jamais seules. Elles apparaissent en ensemble d'innovations qui se soutiennent les unes les autres et permettent de créer ce qu'on appelle un véritable système technique. Un système qui va transformer les modes de production et de consommation.
Donc les innovations, qui sont en quelque sorte des inventions qui auraient réussi, permettent de faire repartir la croissance à la hausse, Claude Serfati. C'est comme ça que Joseph Schumpeter les a pensées.
Oui, c'est comme ça. Il lui revient d'avoir été un des concepteurs de l'importance centrale de l'innovation dans la dynamique du capitalisme. En fait, Marx avait déjà abordé longuement la question des innovations technologiques, et Schumpeter est un grand admirateur et dialoguera toute sa vie avec Marx, d'ailleurs, enfin, par itération, bien sûr, parce qu'ils sont pas de la même génération. L'apport de Schumpeter a été enrichi par ce qu'on appelait les économistes néo-schumpeteriens, qui ont montré un peu dans la veine de ce qui vient d'être dit dans votre incise, que l'innovation n'était pas un processus individuel simplement engagé par un entrepreneur héroïque, comme l'a dit Schumpeter, qu'il nécessitait à la fois des processus interactifs avec d'autres entreprises, avec les utilisateurs, que c'était un processus continu, ça a été souligné, hein, une innovation, et on pourrait en discuter pour les innovations militaires, ça n'est pas d'un seul coup comme ça financé par le militaire, ça prend des années à se mettre en place, et ça requiert surtout, ça a été mentionné avec la notion de système technique dans l'intervention de Lorenzi, ça requiert surtout ce que les économistes ont appelé un système national d'innovation, c'est-à-dire des interrelations très fortes entre les systèmes de formation, l'industrie, les utilisateurs. Cette notion de système national d'innovation, elle est vraiment un cadre absolument indispensable à la réussite des innovations.
On a parlé des technologies qui ont été développées aux États-Unis dans les années 70 et 80. L'armée française était également à la pointe de l'innovation. Et l'un des exemples les plus emblématiques, c'est l'invention du Mirage 2000, conçu par Dassault Aviation à la fin des années 70.
L'Élysée vient de confirmer, de commenter le choix d'un monoréacteur Mirage comme futur avion de combat français.
Le Mirage 2000, cet appareil qui s'inscrit dans la ligne donc des Mirages, pourrait être produit à partir de 1982. Et M. Xavier Gouillot-Beauchamp vient de préciser que ce choix permettra de doter les forces aériennes françaises d'un nombre d'appareils supérieur à celui qui aurait impliqué la décision de construire un biréacteur, coûtait beaucoup plus cher. Ce nouveau Mirage, qui sera doté des derniers perfectionnements, devrait surclasser les appareils de sa catégorie et ouvrir donc de belles perspectives d'exportation à l'industrie aéronautique française.
Un extrait du journal de France Inter du 19 décembre 1975. L'armée française est alors un véritable moteur de l'innovation, Claude Serfati.
Je n'en suis pas sûr. Enfin, elle l'est indiscutablement dans l'aéronautique. L'exemple est bien choisi. Encore que, même s'il a échoué commercialement, le Concorde était une extraordinaire réussite technologique et bien antérieure au Mirage 2000 mentionné. Mais indiscutablement, dans l'aéronautique, la convergence des technologies militaires et des technologies civiles a permis à l'industrie française aéronautique d'occuper encore aujourd'hui un rang d'excellence, j'allais dire malheureusement un des rares rangs d'excellence dans l'industrie française, puisque beaucoup de secteurs sont en perdition, hein, et je pense même à l'autre fleuron que représentait l'industrie automobile. Donc dans l'aéronautique, oui, on pourrait dire que les financements militaires massifs, qui continuent à être massifs d'ailleurs, facilitent la compétitivité civile de nos entreprises aéronautiques. Je dirais exactement l'inverse si nous devons en discuter en ce qui concerne l'électronique ou la machine-outil, où là les priorités militaires et les besoins des militaires et les financements des militaires qui n'ont pas été accordés à l'électronique, à la machine-outil, exercent aujourd'hui des effets encore négatifs et qui sont durables.
On voit que la technologie militaire a longtemps tiré la technologie civile. Sophie Lefesse, qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'on assiste à un renversement et comment l'expliquer?
Alors, je sais si vous me permettez que je réponde à quelques points qui ont été dits
avant
de revenir sur votre question. Sur la différence entre invention et innovation, en sociologie des techniques, on n'a pas le même vocabulaire, mais l'idée est en fait la même. Hein. L'invention, c'est une nouveauté, quelque chose qui n'existait pas avant. Mais ce n'est pas parce qu'on invente quelque chose de nouveau qui va trouver son marché en langage économique ou qui va être approprié par la société en langage sociologique. Et les études montrent que de manière générale, hein, je ne parle pas pour le domaine militaire, la très grande majorité des inventions ne trouvent jamais preneur. Il y a une étude qui donne le chiffre de 95% des inventions qui ne trouvent pas preneur. Vous avez parfois des inventions qui mettent des décennies avant d'être enfin appropriées par la société. Donc ce qui peut expliquer pourquoi il y a des entreprises qui dans la défense qui ne veulent pas se lancer. Quand on a parlé tout à l'heure des dépenses de R&D, la différence entre l'investissement dans du fondamental et dans de l'appliqué, il faut voir qu'il y a une différence entre le marché civil et le marché militaire. Pour dire les choses un peu simplement, le marché civil, il est tiré par l'offre. Je peux créer quelque chose qui n'existe pas et puis je vais quand même, grâce à la publicité, trouver preneur à un moment donné. Même si, comme je l'ai dit, il y a pas mal d'inventions qui ne trouvent pas preneur. Mais dans le domaine militaire, les investissements sont tellement énormes qu'une entreprise ne peut généralement pas se risquer à inventer quelque chose sans être sûre d'avoir une demande derrière.
C'est pour ça que les entreprises vont chercher à limiter au maximum ce risque, voilà. Qu'elle soit civile ou militaire.
Oui, alors dans le domaine militaire, si une entreprise a une idée donc qui vient d'elle-même, hein, il n'y a pas une demande de la part du ministère, ils vont quand même aller tester auprès des militaires, voir s'il y a réellement un intérêt. Mais dans la majorité des cas, on va plutôt attendre qu'il y ait une demande qui est exprimée par le client pour se lancer. Et c'est aussi pour la raison pour laquelle c'est l'État qui finance une grande partie de la recherche fondamentale, davantage que dans le domaine civil, hein, sauf erreur de ma part.
Et alors à quel moment est-ce qu'on observe justement ce tournant, ce moment où la technologie militaire cesse de tirer la technologie civile, Sophie Lefèze?
À chaque fois, c'est toujours difficile de donner une date. Hein. Les historiens vont dire exactement pareil. Disons qu'on dit autour de l'année 1990. Voilà. Même si, en fait, on peut voir les prémices dans les années 70. On a parlé tout à l'heure de l'électronique, où il y avait des financements très forts du département à la défense américain. Et comme l'électronique est aujourd'hui beaucoup utilisée dans les armements, en fait, ces dépenses-là qui ont été faites dans les années 60-70 ont permis donc au secteur civil, comme il a été dit, puisque le ministère allait chercher les choses à l'extérieur de ces entreprises traditionnelles, d'être en avance dans ce domaine-là. Et donc petit à petit, vous avez comme ça un basculement qui s'est fait où le secteur civil s'est retrouvé finalement en avance sur le secteur militaire. Alors je parlais de l'électronique, mais il y a plein d'autres raisons. On peut parler de la taille du marché, par exemple, qui fait que les investissements sont plus facilement rentabilisés dans le domaine civil que dans le domaine militaire. On peut parler aussi du montant des dépenses qui devient extrêmement élevé, enfin de plus en plus élevé. Dans le civil, c'est plus facile de trouver des partenaires avec qui partager le risque que dans le domaine militaire.
Ce qu'on comprend bien, Sophie Lefèze, c'est qu'il y a des allers-retours permanents entre la technologie militaire et la technologie civile. Je vous propose d'écouter Dominique Pestre, historien des sciences. Il était au micro de Nicolas Martin dans la méthode scientifique.
Le vocabulaire de l'activité duale. Ce que nous faisons en tant que militaires sert aussi aux civils. C'est un argument qui émerge historiquement. On le date extrêmement bien. Ça date à peu près de la chute de l'Union soviétique. C'est-à-dire à partir du moment où on a l'impression que la guerre froide se termine, le discours des militaires change. Ils disent « mais ce que nous faisons, c'est dual, ça sert aussi aux civils ». Je pense que c'est pas innocent que ça vienne à ce moment-là, mais on n'est pas obligé d'acheter totalement le discours du dual. Par exemple, si vous êtes chercheur universitaire, vous pouvez dire « mais moi je ne tiens pas à être dual dans ce sens ». Vous comprenez ? Il s'agit bien d'une manière de parler qui date d'une certaine époque, c'est-à-dire que ce n'est pas un vocabulaire neutre.
Ce discours sur la dualité intervient au moment où l'armée sent qu'elle pourrait être dépassée par les innovations venues du monde civil, Claude Sarfati.
Oui, alors juste pour revenir un petit peu en arrière, le militaire a tiré l'innovation civile que dans certains domaines limités. Hein. Dès les années 70, les Japonais commencent à prendre le dessus dans l'informatique, dans l'électronique, et ça suscite des tonnes d'inquiétudes aux États-Unis, même pour l'avion de combat. Les Américains commencent à s'inquiéter de la possibilité qu'auraient les Japonais de construire cet avion. En fait, les Japonais auraient cette possibilité à la fin des années 70. Ils y renoncent pour des raisons politiques. Donc, le fait que le militaire tire l'innovation civile, il faut vraiment relativiser.
Ça n'a jamais été complètement vrai.
Voilà, il faut même relativiser un certain nombre de secteurs limités. Je reviens juste sur Dual, je souscris totalement à ce qu'a dit Dominique Pestre, avec deux choses de plus. La notion de dualité a été introduite dans les années 90, comme il l'a dit, pour des raisons d'exportation. fond, c'est-à-dire on voulait vérifier que les exportations de biens civils ne puissent pas servir à des fins militaires. Et deuxièmement, j'ai été un petit peu impliqué dans les programmes de recherche par la Commission européenne, plus précisément donc en langage européen, où la Commission européenne a commencé à insister sur le langage de technologie duale pour pouvoir rentrer enfin dans le domaine de la défense, qui, comme vous le savez, lui était interdit depuis le traité de Rome de 1958. Donc il y a toute une série de raisons, de facteurs et d'acteurs qui sont intéressés à faire émerger la notion de technologie duale. Je partage le même scepticisme que Dominique Pestre sur ce point.
À partir des années 90, Sophie Lefèze, on va chercher de plus en plus parmi les produits civils ceux qui peuvent convenir aux besoins militaires.
Oui, mais c'est ce que j'ai vu dans les textes, par exemple le discours du DGA de l'époque, Monsieur Anmer, qui disait que donc désormais il fallait aller effectivement voir ce qui se passe dans le civil, parce qu'il y a des choses intéressantes qui s'y passent, et ça permettait aussi dans le même temps de pouvoir faire des économies. Parce qu'on commence à cette époque à être dans une logique d'économie, et on commence à se dire qu'on ne pourra peut-être plus financer tous les secteurs techniques qui intéressent la défense. Et quand je dis financer, c'est pas simplement donc financer ceux qui font la recherche, mais financer aussi le personnel de la DGA qui suit ces travaux-là également. Donc financer
la DGA, la Direction générale de l'armement.
Oui, voilà. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des domaines sur lesquels le ministère n'a plus d'expertise en interne.
Alors Claude Sarfati, ce qu'on se demande un petit peu, c'est quelles sont les conditions pour qu'une innovation dans le domaine militaire passe dans le domaine civil. On a cité beaucoup d'exemples, mais quelles sont les conditions qu'on pourrait un petit peu réunir, enfin expliquer aux auditeurs ?
Il y a déjà un constat à peu près unanime fait par les observateurs, c'est qu'il faut que cette technologie soit située très en amont dans la recherche, c'est-à-dire plus on est près de la recherche fondamentale et plus l'innovation ou la découverte ou l'invention peut être dirigée vers le civil. Il faut également un tissu industriel très important. C'est là où la France diffère profondément des États-Unis, alors qu'elle a le même modèle de centralité du militaire dans sa politique technologique, c'est que la France n'a pas la base industrielle aussi large que celle des États-Unis. Je l'ai donné dans les trois exemples tout à l'heure, mais on pourrait le reprendre aujourd'hui. C'est à Amazon que le département de la Défense vient de s'adresser aujourd'hui pour un contrat de 10 milliards pour stocker ses données dans un cloud. C'est à Google qu'il essaye de s'adresser pour développer l'intelligence artificielle. Il est hélas, impossible à la France de s'adresser, disons, à un tissu industriel large comme celui des États-Unis. Là, on paye, si vous voulez, le fruit de priorités données à des grands programmes technologiques autour desquels se sont construits des grands groupes, et un tissu, on va dire, d'entrepreneurs héroïques, pour parler comme Schumpeter, très insuffisant en France. Donc, une des conditions, je crois qu'elle est un peu exceptionnellement réunie par les États-Unis et eux seuls, c'est d'avoir une base industrielle et technologique suffisamment large pour que, en dehors du militaire, des innovateurs se mettent à se lancer dans l'aventure.
Alors comment comprendre que les militaires se tournent de plus en plus vers le civil ? Comment l'armée a perdu sa position dominante en termes de recherche sur l'innovation ? On en parle dans un instant.
Entendez-vous l'écho, Tiphaine de Rocchini.
Military Madness de Crosby, Stills & Nash. Et nous poursuivons notre discussion sur les innovations militaires avec Claude Sarfati et Sophie Lefèze. Alors, quelles sont les raisons qui poussent aujourd'hui le monde militaire à se fournir sur le marché civil? Je vous propose d'abord d'écouter Emmanuel Kiva. Il est directeur de l'Agence de l'innovation et de la défense au ministère des Armées.
On rentre dans une ère dans laquelle ce qui était régalien ne l'est plus. Aujourd'hui, n'importe qui, j'exagère un petit peu, mais n'importe qui peut concevoir son anneau satellite sur Internet et demander à une société privée de le lancer dans l'espace. Ça n'est plus l'apanage des États. On assiste également à l'émergence d'acteurs colossaux, transnationaux, valorisation d'Apple à $1 trillion, hein, qui permettent la démocratisation de l'accès à la technologie. Et donc, cette démocratisation, cette accélération des cycles technologiques, elle bénéficie à tout le monde, potentiellement aux armées, mais également à nos ennemis, qui pourraient utiliser cette technologie avant nous, avec, pour nous, la crainte que l'on puisse rater cette prochaine évolution technologique.
Un extrait d'une interview réalisée par Le Figaro en octobre dernier. Les moyens financiers des États sont désormais sans commune mesure avec ceux du secteur privé. C'est ce qui explique ce recul de la recherche militaire, Claude Sarfati.
Oui, probablement. Plus généralement, peut-être que les illusions que le système militaire était moteur dans l'innovation sont en train de s'évanouir, puisque les masses d'argent qui sont mises dans le budget militaire ne suffisent plus maintenant à concurrencer les entreprises privées. Oui, depuis 1945, la technologie a pris une importance centrale et aujourd'hui, les grands groupes industriels privés, je veux dire civils, dépensent de plus en plus en innovation. Ils sont soutenus par les marchés financiers, toutes choses que les États ont du mal à réunir comme conditions. Donc je pense que c'est dans un effort défensif, entre guillemets, sans jeu de mots, que les gouvernements essayent de se tourner vers le privé avec, par exemple, la création d'une agence de l'innovation en France, une tentative d'imitation à la fois de la DARPA, l'agence technologique américaine, et puis plus récemment d'un autre institut d'innovation qui est chargé d'être en contact avec les start-up de la Silicon Valley. Un petit peu partout, il y a ces tentatives. En Chine, je connais beaucoup moins le système chinois, mais j'ai simplement lu les rapports qui sont faits sur ce pays. On voit également l'effort intense de faire collaborer les entreprises civiles et les entreprises militaires pour faire progresser l'innovation.
Ce recul de la recherche militaire, Sophie Lefèze, est aussi lié à la professionnalisation des armées décidée en 1997 et qui a entraîné une réduction d'effectifs considérable. Désormais, le marché est en fait trop petit, le marché militaire par rapport au marché civil.
Oui, alors... De la même façon, si je peux revenir sur quelques questions avant, sur la condition de la dualité, il me semble qu'on peut ajouter d'autres éléments dont sans être exhaustif, pour qu'une technologie puisse se servir aussi bien dans le civil que dans le militaire, il faut qu'elle réponde à des attentes en termes de qualité, donc de niveau de performance et de résistance. Même si initialement, par exemple, puisqu'on parlait de l'électronique, on pouvait avoir des puces qui n'étaient peut-être pas résistantes dans des écarts de température plus élevés qui sont généralement demandés dans le militaire, mais la solution de l'époque a été de se dire on les met dans une boîte, on durcit la boîte et comme ça on a le niveau de résistance que l'on attend. Donc on a aujourd'hui des choses dans le civil qui sont suffisantes en termes de qualité de performance pour répondre à des besoins militaires. Il y a une deuxième condition aussi qui est à prendre en compte, c'est la question des normes aussi. Il y a de plus en plus de normes, aussi bien dans le civil que dans le militaire, et il faut que cette technologie ou cette brique technologique qui a été conçue dans une certaine visée applicative, que ce soit le civil ou le militaire, puisse répondre aux normes de l'autre domaine d'application.
Alors, il y a tous ces éléments, en effet, sur lesquels on pourra revenir, mais sur cette question du marché qui est trop petit, peut-être, peu important, est-ce que les startups, finalement, considèrent le marché militaire uniquement comme un marché d'appoint?
Oui, en effet. Donc ça, c'est une enquête que j'ai effectuée avec d'autres personnes de l'IRIS sur ce sujet-là. Et donc, effectivement, quand on va les interroger, ces personnes, en fait, on s'aperçoit que les startups ne pensent pas forcément qu'il y a des applications militaires à leurs produits. Ça, c'est dû aussi à la méconnaissance du marché militaire. Moi, la seule personne que j'ai rencontrée qui m'a dit qu'il y avait pensé, il était réserviste, en fait. Voilà, donc on comprend qu'il y pense. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui dise, mais en fait, tu sais, il peut y avoir des applications militaires à ton produit. Et dans ces cas-là, cette personne se dit, bah tiens, ça peut être une source de financement auquel je n'ai pas pensé spontanément. Donc, effectivement, le marché militaire peut être vu comme effectivement une source de financement pour finir de développer sa technologie. Mais après, quand vous regardez un petit peu quels sont les clients, quand on regarde au niveau macro, les clients ne sont que les États, au final. Les États, vous en avez 200 sur la planète. Donc déjà, ça vous réduit pratiquement votre marché. Ensuite, il y a effectivement...
Et en même temps, les budgets des armées ne cessent d'augmenter.
Oui, parce que justement, le matériel augmente.
C'est un marché, du coup, potentiellement intéressant.
Des formats en France avec la professionnalisation, l'armée terre a perdu 40% de ses personnels et les deux autres armées 30%. Donc vous avez moins de personnel, vous avez donc moins besoin de matériel, donc vous allez passer moins de commandes. Mais là vous avez des économies d'échelle, j'en commande moins donc ça va me coûter plus cher. Ça va me coûter donc d'autant plus cher que j'attends des performances qui sont très élevées. Et puis comme j'en commande pas beaucoup, je vais demander à ce que ça fasse davantage de choses qu'avant. Donc ça c'est Edouard Ludwig hein, qui parle de cet effet-là. Donc j'en commande pas beaucoup, donc je compense par de la performance, donc je vais financer des innovations, donc mon coût sera d'autant plus élevé, il va être tellement élevé que je vais en acheter moins. Effectivement, vous tombez dans ce cercle-là, vous avez finalement quantitativement moins de matériel, même si c'est plus performant, mais des budgets qui sont du coup en augmentation.
Alors Sophie Lefesse parlait de cette méconnaissance du monde militaire chez les entreprises civiles et notamment chez les start-up. Est-ce que ce n'est pas justement à cela que devrait remédier cette nouvelle agence de l'innovation et de la défense dont on a parlé, qui a été créée en septembre dernier et qui est dirigée donc par Emmanuel Kiva, qui lui-même vient du privé? C'est sans doute pas un hasard.
Oui, il sera temps de faire le bilan, effectivement, au bout de quelques années.
C'est en tout cas l'objectif de cette agence, de s'ouvrir davantage au monde du privé.
Bien sûr. Mais comme ça a été dit précédemment, un des grands problèmes auxquels sont confrontées les petites entreprises, PME, start-up, appelez-les comme vous voulez, c'est la méconnaissance des règles et les contraintes bureaucratiques et énormes qui dressent d'énormes barrières à l'entrée, comme disent les économistes, au marché de l'armement. C'est-à-dire que très souvent, un militaire va finalement préférer continuer à commander ou à faire commander par la DGA en France ou par d'autres agences aux États-Unis auprès d'un grand groupe parce qu'il le connaît, parce que ce grand groupe a produit des produits depuis des dizaines d'années, que c'est quand même plus simple de passer par lui. Donc, si vous voulez, il y a une difficulté liée à l'inertie bureaucratique, aux enjeux de réglementation, de confidentialité, de sécurité, et peut-être aussi aux intérêts acquis de ceux qui cherchent à garder ces marchés militaires, qui rendent très difficile l'accès des start-up. Aux États-Unis, par exemple, et cela est vrai aujourd'hui de la Silicon Valley comme ça a été vrai depuis des dizaines d'années, les PME sont prises entre deux contradictions. D'une part, évidemment, l'attrait de ces marchés que vous avez mentionné, qui est tout à fait exact, et d'autre part, le fait que dès lors qu'elles vont rentrer sur ces marchés, elles risquent d'être sous surveillance militaire, contraintes de rendre des comptes, ce qui, pour elles, est évidemment inacceptable dans la concurrence civile et qui se veut plus ouverte. On a le même problème en France où 80% des commandes militaires et un peu plus même de la R&D militaire est organisée par seulement 10 grands groupes, comme l'a montré récemment une étude de l'Observatoire économique de la défense, qui est un institut au sein du ministère de la Défense. Donc, si vous voulez, il y a à la fois un attrait des PME quand elles existent aux États-Unis, et en même temps une peur, et même Google, qui n'est pas une PME, hésite et est pris entre ces deux feux. L'attrait du marché extraordinaire des 10 milliards d'Amazon, pour lequel il était aussi en compétition, et d'autre part, le refus de participer à des opérations militaires parce que ça entraîne toute une série de contraintes sur son activité commerciale ou éthique, puisque les salariés de Google ont demandé à Google de ne pas contracter avec le Pentagone.
Et puis il y a peut-être une autre raison qui explique que de plus en plus les armées aient recours au privé, c'est le fait que les combattants ennemis, eux, le font déjà. Ce sont désormais nos ennemis comme Daesh qui disposent de la technologie civile comme les drones capables de lâcher des grenades ou de nous localiser puis d'attaquer au mortier sans que l'on sache d'où vient l'attaque. C'est ce que déclarait le général Baudouin, sous-chef d'état-major, dans un article de la Tribune paru en juin. Claude Sarfati, on a aussi cette nécessité pour les armées de connaître connaître les technologies utilisées par l'ennemi ?
Oui, mais en général, les technologies utilisées par l'ennemi, ce sont des technologies dégradées qui ont été produites dans les pays développés. Hein. Donc, il faut les connaître, il faut les combattre. Je crois que c'est fait dans les pays en question. Mais le danger, c'est plutôt la prolifération technologique. C'est-à-dire que quand vous vendez des centrales nucléaires, vous refusez de les vendre à l'Iran, mais vous dites que vous êtes prêt à les vendre à l'Arabie Saoudite, vous risquez de mettre entre les mains de gouvernements autoritaires et dangereux une arme nucléaire dans quelques années. Lorsque vous vendez des systèmes d'armes extrêmement performants, vous risquez, disons, le copiage ou la copie ou l'amélioration à des fins tout à fait destructrices. Donc je pense que la question que vous posez, c'est plutôt celle de l'épée et du bouclier, c'est-à-dire à partir du moment où on a des ennemis qui s'arment, eh bien on va essayer de s'armer encore plus et de s'engager un peu plus dans la dans l'aventure technologique. J'ajouterais, peut-être qu'on en discutera, que on ne parle plus maintenant de technologie duale, on ne parle plus de retombée, hein, de spin-off en anglais, mais on parle de technologie sécuritaire. C'est-à-dire que là, il y a un nouveau marché sur le plan économique et une nouvelle dimension stratégique qui s'ouvre, qui fait que les armes ou les systèmes produits sont de plus en plus à usage aussi bien militaire que civil. Je pense aux technologies de surveillance, de cryptage, etc. Donc là, on rentre dans un nouveau domaine qu'il faut absolument explorer aujourd'hui.
Si les entreprises civiles sont effectivement à la pointe de l'innovation, l'enjeu pour l'armée, c'est désormais d'adapter des technologies civiles à un usage militaire, mais c'est potentiellement extrêmement coûteux, Sophie Lefèze.
Coûteux, non, pas nécessairement. Ça pose plutôt des problèmes pratiques. Hein. Donc, on l'a dit sur des questions de bureaucratie, d'inertie, la question du rythme aussi. Une TPE va vous dire qu'elle aimerait bien pouvoir finaliser entre la conclusion de la vente et la livraison, que ça se passe en 6 mois. Bon, pour les armées, c'est très compliqué de faire ça sur 6 mois. Une grosse entreprise a plus de trésorerie pour pouvoir tenir la durée nécessaire. Donc, vous avez cette question-là de la temporalité.
Et on a des recherches en ce sens davantage que visant l'innovation, des recherches qui visent véritablement à adapter ce matériel civil de plus en plus.
Voilà. Donc sur l'adaptation, donc ça sera plutôt donc la question des normes, de l'intégration de cette brique-là dans une structure qui est déjà là. Au niveau du militaire, quand on regarde les grandes plateformes, les grands avions, les bâtiments, ils ont une durée de vie qui va jusqu'à 40 ans. Donc ce qu'on va changer, ce sont les pièces à l'intérieur. Et là se pose une question. Emmanuel Kivel a dit, les cycles au niveau du civil sont très rapides. Or, dans le militaire, on n'est pas sur cette même temporalité-là, on est quand même plus long, on l'a dit aussi. Donc si on veut rester à la pointe de ce qui se fait, il faut que les armées soient désormais capables d'intégrer très rapidement quelque chose qui vient de sortir. Alors déjà, il faut être capable de le repérer, qui vient de sortir. Être capable d'étudier si vraiment c'est pertinent ou non par rapport à nos, aux besoins militaires, et ensuite de procéder à cet achat et à cette intégration. Et là, il y a des gros défis organisationnels que connaissent actuellement donc l'armée américaine, mais aussi l'armée française.
Vous soulevez, Sophie Lefèze, le problème de l'obsolescence accélérée. C'est l'une des limites aujourd'hui des apports du civil au profit du militaire, Claude Sarfati.
Enfin, ça peut se discuter parce que un des constats faits par les militaires, c'est que souvent, pour les raisons qui viennent d'être données, le système lui-même, la plateforme, hein, qu'elle soit un avion, un char ou un bateau, un navire, reste valable, mais les composants et sous-systèmes qui le composaient sont devenus obsolètes. Donc le problème de l'obsolescence peut aussi se poser pour les militaires parce qu'ils ont introduit dedans des composants ou des sous-systèmes qui ont maintenant des années, voire des dizaines d'années. Donc je suis pas sûr que l'obsolescence rapide dans le domaine civil pose des problèmes aux militaires d'importance. Je pense que dans cette question, il faut distinguer effectivement ce qui est le produit qui peut être utilisé par les militaires. Un des généraux de l'armée de terre expliquait dans une audition à l'Assemblée nationale que pour l'opération Sentinelle, il était impossible d'équiper ces soldats avec des appareils radio classiques et traditionnels, tellement ils sont énormes. Donc, il était passé au smartphone, dit-il, dont il a équipé tous ses militaires. 1000 exemplaires ont été commandés pour l'Euro 2016, précisait-il. Donc, à ce niveau-là, lorsqu'il s'agit de produits relativement standards et sûrs, fiables, bien sûr, et d'excellente qualité, je pense qu'on peut remplacer les produits militaires typiques par des produits civils. Lorsqu'il s'agit de systèmes ou de sous-systèmes même très complexes qui doivent être sécurisé, confidentialisé, ça devient beaucoup plus difficile. C'est pour ça que, en général, c'est là que sont les grands groupes de l'armement, aux États-Unis comme en France, qui sont les maîtres d'œuvre, parce que c'est là où il faut absolument surveiller ce qui va être fait, et c'est là aussi où les marges de profit sont notoirement les plus élevées.
Mais le problème, comme le disait Sophie Lefebvre, c'est que les normes civiles s'imposent désormais, et ce sont des normes qui ne tiennent pas compte des besoins militaires. Vous ne seriez pas aussi catégorique?
Enfin oui, encore une fois, cela dépend des équipements. Le smartphone dont je prenais l'exemple a des conditions de sécurité suffisantes. Le rapport Villani explique qu'un certain nombre de technologies de surveillance qui sont aujourd'hui mises en œuvre peuvent aussi bien être utilisées dans la défense, peut-être avec quelques petites adaptations, que dans le civil. Donc je suis pas sûr que aujourd'hui, pour un certain nombre de produits, la question de l'obsolescence ou de la non-adaptation militaire se pose. On voit toute une série de domaines où il y a convergence nette, très nette, des produits, voire de certains sous-systèmes.
Et alors, le fait que l'armée adapte de plus en plus des produits civils aux besoins militaires, c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, la Direction Générale de l'Armement finance à la fois des projets militaires et des projets civils. Elle finance les deux types de projets.
Oui, enfin, les derniers chiffres qu'on a montrent quand même que les 4,9 milliards de recherche et développement, ou le milliard d'euros de recherche dite amont, c'est-à-dire en fait de recherche appliquée, vont essentiellement quand même aux grands groupes de l'armement, hein, et même à 8 ou 10 groupes selon les cas de l'armement. Donc il faut peut-être pas exagérer l'importance des contrats civils. Il y a des programmes qui sont lancés par la DGA, le programme Rapide en particulier, qui est destiné aux PME civils, mais ce sont des sommes qui sont encore marginales, je veux dire quelques dizaines de millions par rapport aux milliards d'euros d'amont, de dépenses amont, ou aux 5 milliards de dépenses de recherche et développement que j'ai mentionné. Donc ces recherches civiles restent encore relativement modestes.
Sophie Lefebvre, vous vouliez réagir?
Oui, donc juste sur les normes, disons qu'une solution que les militaires ont trouvée pour être sûrs de se faire entendre, c'est de rejoindre les instances qui décident des normes. Ça, par exemple, était le cas dans le blindage.
Dans quelles circonstances? Le blindage?
Oui, voilà. On s'est aperçu que finalement, il se passait des choses dans ces instances-là qui pouvaient avoir des impacts chez eux, et ce n'était pas anticipé, parce que contrairement aux exemples qui ont été donnés, voilà, ils se disaient le blindage, on est quand même plutôt dominant, mais en fait, les choses se faisaient sans eux. Donc, ils ont envoyé désormais des personnes pour participer à la rédaction de ces normes-là.
Et alors, dans ce transfert du militaire vers le privé, est-ce qu'il n'y a pas un risque vers le civil? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que certaines filières technologiques s'éteignent, Sophie Lefebvre, faute de clients? Est-ce que les besoins civils ne sont pas en train de devenir prioritaires?
Non, je dirais pas cela. Disons que c'est une logique, à mon sens, toujours motivée par l'économie, par les économies financières, et par le fait que le civil fait finalement des choses très bien. C'est ce que disait Emmanuel Kiva. C'est de bonne qualité, c'est pas cher. Donc pourquoi est-ce que l'État irait dépenser de l'argent pour soutenir des choses qui se font sans lui très bien et pas cher? Donc, quitte à dépenser de l'argent, autant le faire là où le civil ne fait pas les choses d'une qualité qui réponde aux besoins des militaires. Donc, ils vont financer effectivement là où le civil ne le fait pas. Donc, c'est plutôt du complément, là aussi, du point de vue des militaires, pour avoir, le jour où ils en auront besoin, des technologies qui soient prêtes à répondre aux besoins.
Vous diriez, Claude Serfati, qu'aujourd'hui, les entreprises d'armement sont pour la plupart impliquées dans des activités civiles, ce qui leur permet de rentabiliser les coûts de recherche et développement?
Oui, ou plus exactement, elles rentabilisent leurs activités civiles par les financements qu'elles reçoivent du ministère de la Défense. Les 8 premiers groupes que j'ai étudiés et mentionnés dans les études que j'ai réalisées récemment représentent aujourd'hui 1/5 des dépenses de recherche et développement en France. 8 groupes seulement de l'armement ont des dépenses de R&D de 1/5 de tout le tissu industriel français. C'est énorme. Alors, ce n'est pas que dans le domaine militaire, précisément, c'est dans le domaine civil. Ce sont essentiellement des entreprises de l'aéronautique auxquelles je pense, et puis quelques entreprises du militaire. Je pense que la rentabilisation est autant grâce aux mannes, à la manne reçue dans les commandes militaires que l'inverse. Enfin, je pense que le marché militaire demeure un marché extrêmement lucratif pour les grandes entreprises de l'armement, même si elles se tournent de plus en plus vers les marchés civils pour des raisons de dimension de marché que vous avez mentionnées.
On disait tout à l'heure que le marché militaire était trop petit. Alors là, il s'agit d'une arlésienne, mais est-ce qu'une armée européenne ne permettrait pas justement de résoudre ces problèmes d'économie d'échelle? La R&D militaire retrouverait ainsi une certaine indépendance, Claude Sarfati?
Oui, l'économiste que je suis, même si je suis un membre de l'économie politique, partisan de l'économie politique, ne peut pas vous répondre. Enfin, je pense qu'on peut attendre une défense européenne comme on attendait Godot chez Beckett. Tous les exemples, je les ai documentés il y a longtemps, tous les exemples de coopération européenne industrielle, j'entends, se sont soldés finalement par des échecs relatifs. Je parle dans le domaine militaire. Airbus est évidemment une réussite remarquable dans le domaine civil. Quant aux obstacles politiques qui se dressent sur la voie de l'armée européenne, voire de l'intégration de défense européenne, je vous propose de me réinviter dans 20 ou 30 ans.
On y pensera. On sera bien là. Mais alors, le problème peut-être qui se soulève, c'est celui de l'intérêt pour le civil, en effet, d'un certain nombre de technologies, mais il reste des domaines qui n'ont pas d'intérêt pour le civil et qui sont cruciaux pour l'armée. On peut dire que la recherche militaire a encore un rôle à jouer, et peut-être aussi que ce recul de la recherche militaire est emblématique de la place de l'armée aujourd'hui dans la société, qui a un certain retrait, Claude Sarfati.
Je ne sais pas si dans la rue on peut voir le retrait de l'armée, en tout cas en France, mais je comprends ce que vous dites sur le plan, disons, économique. Il est clair que le marché militaire, la production militaire, les groupes militaires sont de plus en plus petits par rapport au gigantisme de l'économie civile. Quand je regarde les financements publics qui abondent encore en France, je prendrai l'exemple de la France, qui abondent encore les dépenses militaires, je suis pas sûr qu'il y ait marginalisation de l'armée en France, et je suis pas sûr qu'il y ait marginalisation des crédits militaires. Encore une fois, 40 milliards d'euros de budget et 200 milliards pour la loi de programmation militaire sur les 6 ans qui sont prévus, ce ne sont pas des petites sommes, surtout à l'aune de ce qu'on entend dans les discussions aujourd'hui en France.
Le premier forum de l'innovation de défense est en tout cas tenu en novembre dernier, Sophie Lefebvre, c'est bien la preuve que la recherche militaire n'a pas dit son dernier mot?
Non, on a toujours l'accent qui est mis très fortement sur l'innovation, puisqu'on est toujours dans cette logique que je décrivais au début. Il faut que je sois supérieur à l'adversaire pour être à peu près sûr de l'emporter.
Un dernier mot peut-être, Claude Sarfati, sur cette évolution de la recherche et sur l'avenir des innovations militaires?
Comme je l'ai dit, et je pense que ça mérite vraiment une réflexion pour l'avenir, la question de la sécurité devient aujourd'hui centrale, et elle fait converger de nouveau, et sous des formes effectivement adaptées à notre millénaire, les technologies militaires et civiles, dans des conditions différentes de celles des décennies passées dont nous avons discuté, mais qui sont, à mon avis, tout aussi inquiétantes pour les citoyens.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'Écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de revenir sur la tragédie qui a touché le Brésil la semaine dernière avec la rupture d'un immense barrage minier en plein cœur du Minas Gerais.
Oui, le 25 janvier dernier, la ville de Brumadinho, à 60 km de Belo Horizonte, était dévastée par une coulée de boue dévalant les collines environnantes depuis la mine de Corrego di Feijão. En quelques minutes à peine, c'est toute une partie de la ville qui a été emportée par le déversement des millions de litres de terre et d'eau chargés de déchets miniers. Le dernier bilan établi par les autorités brésiliennes faisait état de 65 morts et de plus de 300 disparus. Il faut dire que la ville est enserrée dans un complexe industriel et minier de 13 barrages aux proportions gigantesques exploitées par le géant brésilien du minerai, l'entreprise Vale. Le barrage qui a cédé le 25 janvier dernier était pourtant désactivé, je cite, depuis 3 ans, mais contenait toujours 13 millions de mètres cubes de boue. Un véritable danger à ciel ouvert que les autorités locales ont préféré ignorer.
Pourtant, des contrôles avaient bien été effectués sur le site, conformément aux réglementations en vigueur.
Oui, c'est en tout cas ce qu'affirme l'Agence nationale des mines en charge de la délivrance des permis d'exploitation et du contrôle des sites, qui a affirmé dans un communiqué que le barrage en question avait bien subi les contrôles nécessaires par une entreprise tierce et indépendante. Il convient toutefois de préciser que ce bureau d'études, présenté comme indépendant, travaille quasi exclusivement pour l'entreprise Vallée et que ses conclusions ont été plusieurs fois remises en cause par des scientifiques qui en contestent l'impartialité. De même, le secrétariat à l'environnement de l'État du Minas Gerais avait, dans une réunion du 11 décembre dernier, évoqué explicitement le risque d'une rupture de ce barrage sans que cela n'empêche ses membres de voter un renouvellement du permis d'exploitation. Un véritable aveuglement collectif et volontaire de la part des autorités dont le seul objectif était de protéger coûte que coûte l'activité.
Il faut dire que les enjeux économiques étaient particulièrement importants, Arjuna.
Oui, le géant minier Vallée, premier producteur de minerais de fer au monde, est également le premier employeur de la ville, ce qu'explique le maire de Brumadinho dans une interview. Vallée est très importante pour nous, elle représente plus de 1000 emplois et 60% de nos ressources fiscales. Difficile en ces conditions de se montrer trop ennuyeux ou trop tatillon avec celui qui fait vivre une partie importante de ses concitoyens. Une fois de plus, c'est donc une logique économique de court terme qui s'est imposée aux dépens d'une vision de long terme de protection des espaces et des hommes. Mais ce manque de contrôle dépasse largement le cas de Vallée et de Brumadinho, comme l'explique dans Le Monde Laetitia Marques, une professeure en droit environnemental à l'université de Sao Paulo. La loi au Brésil est suffisamment rigoureuse, elle impose des obligations très strictes pour préserver l'environnement. Le problème, c'est qu'il n'y a personne pour les faire respecter. Les moyens humains et financiers des organismes en charge de leur application ont ainsi fondu comme neige au soleil ces dernières années.
Cette catastrophe risque donc de se reproduire.
Oui, de l'aveu même du ministre chargé du développement régional, le Brésil ne dispose pas des ressources suffisantes pour réviser l'ensemble des barrages présentant un risque, soit tout de même près de 4000 structures sur l'ensemble du territoire. Il est donc tout à craindre que ces accidents se multiplient alors que le nouveau président Jair Bolsonaro s'est déclaré lui-même hostile à tout renforcement des contrôles de l'industrie et s'est fait le champion de l'exploitation sans restriction. Mais la situation préoccupante du Brésil ne doit pas nous faire oublier que quelques milliers de kilomètres de Brumadinho, on s'apprête à construire, selon les mêmes logiques, une immense mine d'or au cœur d'une zone protégée de la forêt amazonienne. Il ne s'agit pourtant pas ici d'un manque de contrôle des autorités brésiliennes, puisque le projet de montagne d'or se trouve en plein territoire français. Un projet d'exploitation minière qui fait pourtant peser d'immenses risques de contamination et de destruction de l'environnement au nom de la croissance et du développement, évidemment.
Giving up the gun des Vampire Weekend. Merci beaucoup Claude Safati et Sophie Lefebvre de nous avoir accompagnés aujourd'hui. On se retrouve demain pour une émission consacrée au business du trafic d'armes. En attendant, n'hésitez pas à écouter ou réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Et rendez-vous également sur Twitter, hashtag Entendez-vous les coups.